Bonjour. Voilà, Comaguerre vous retrouve, comme tous les mardis à 14h sur les ondes de Radio Galère, mais dans des conditions techniques un petit peu particulières que je vais vous décrire. Nous sommes en train de faire une transformation de notre studio d'enregistrement avec une nouvelle table de montage, ce qui veut dire que Comaguerre, association libre et indépendante, a encore les moyens, touchant du bois, d'installer du nouveau matériel. Et ça paraît être une décision extrêmement opportune, puisque dans la crise politique, économique que traverse notre pays, il est important que tous les médias indépendants gardent la capacité de s'exprimer. Donc nous sommes aujourd'hui dans un studio, le studio de dépannage de Radio Galère, petitement installé, mais dès la semaine prochaine, vous retrouverez la nouvelle installation directement à l'antenne. Vous l'entendrez plutôt et vous aurez une qualité de son qui nous permettra de traverser toutes les difficultés de la période à venir qui ne seront pas nulles avec une audience la plus facile possible de votre côté. Et effectivement, les événements ne manqueront pas et ils n'ont déjà pas manqué dans la semaine qui vient de s'écouler depuis le 7 janvier, notre précédent rendez-vous. Donc je remercie particulièrement Sidi qui est aujourd'hui à l'ouvrage sur notre petit studio de dépannage de secours improvisé et qui a accepté de venir nous porter secours pour notre expression la plus libre possible. Voilà. Alors beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de choses s'annoncent. Alors tout le monde est un peu dans l'espèce d'angoisse presque frénétique dans qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. Mais il va rien arriver d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir, ce sera le mardi je crois, l'installation à la Maison-Blanche du nouveau président élu dans des conditions qu'on connaît avec l'ancien président qui lui passe le relais. Bon, ce qu'il faut. Alors en général, c'est une cérémonie qui est filmée, qui n'est pas suivi sur place par beaucoup. Il n'y a pas une assistance internationale nombreuse, pas du tout. Il y a quelques invités, mais très très peu nombreux. Et donc, c'est surtout un spectacle télévisuel à l'échelle mondiale qui est organisé. Ça ne veut pas dire que mardi soir, donc 21, la politique mondiale va changer. Bon. Ça veut dire simplement qu'il y a une nouvelle équipe dont on connaît en gros le profil, mais beaucoup de choses restent à confirmer. Et surtout, on ne sait pas. Alors, elle a pu parler, bien sûr. Monsieur Musk va ici et là, il parle. Donald Trump va ici et là, il parle. Mais finalement, ils n'engagent rien puisqu'ils ne sont pas vraiment aux affaires. Et que pendant les derniers jours où l'équipe Biden est là, elle s'occupe de ce qu'elle peut encore faire pendant 8 jours. La signature est encore pour une semaine sur le bureau de la table ovale de Joe Biden. Il ne faut jamais l'oublier parce que vu ce qui se passe dans les semaines, depuis les semaines où Trump a été élu, on peut penser que les derniers jours vont être particulièrement agités dans le bureau de la Maison-Blanche. Qui que ce soit qui signe les papiers, ça c'est une affaire que les médecins régleront plus tard quand ils nous diront. Alors je suis sûr que dans 6 mois, on va avoir un avis médical disant, vous savez, dans l'état où était Biden, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais aujourd'hui, il ne faut pas le dire. Alors je ne le dis pas, ça n'a pas d'importance. De toute façon, le personnage qu'on appelle le POTUS, hein, POTUS ça veut dire pouvoir en latin, mais c'est aussi President of the United States. Bon, le pouvoir, il est limité à ce que peut faire dans sa tête un homme en bonne santé par rapport à l'ensemble des responsabilités qu'il a. Et il ne s'agit même pas simplement du président des États-Unis. Le président chinois pourrait aussi avoir la tête qui explose. Hein, le président français, d'une certaine façon, on va en parler, il n'a pas la tête en très très bon état. Bon, parce qu'il a beaucoup... Et donc, ne rêvons pas, ne jouons pas dans ce spectacle où un personnage arrive, il a tout compris, il décide de tout et le monde en se plie à sa parole. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Bon. Alors, puisqu'on en est à comment ça se passe et tout ne se plie pas à la volonté du seul chef en titre, je vais revenir quelques instants sur la conférence de presse que M. Macron a fait, donc c'était lundi dernier, aux ambassadeurs. Conférence, je le rappelle, qui se tient d'habitude tous les ans à la rentrée des classes en septembre, et qu'il a tenu exceptionnellement un mois de janvier. Alors pourquoi il a tenu à le faire ? Alors j'ironisais, mais j'ironise encore. Il a dit aux ambassadeurs, vous étiez tellement pris par les Jeux Olympiques que je ne voulais pas vous imposer cette corvée. Alors lui était certainement pris par les Jeux Olympiques parce qu'il s'y est passionné. Je ne sais pas si tous les ambassadeurs de France, il y en a quand même une bonne centaine, étaient là, rivés sur leur écran de télévision, en train de regarder telle ou telle épreuve ou d'écouter telle ou telle chanson. Mais pour lui, c'était ça. Il a occupé une bonne partie de son année 2024 à s'occuper des Jeux Olympiques et probablement de pas d'autre chose.
Bon. Et ça continue.
Et ça continue puisqu'il dit encore « qu'est-ce qu'on a été bon ?» hein. Alors comme s'il avait eu... Alors,
oui, on a des rétrospectives régulièrement, voilà, tous les jours.
Et donc, comme s'il avait eu la médaille du meilleur président d'une allée olympique. Alors, personne, il n'y a pas d'académie, il n'y a pas de Nobel du président des années olympiques, mais autrement, il aurait été volontiers candidat et il aurait été furieux de ne pas l'avoir. Bon, mais arrêtons d'ironiser. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans cette conférence aux ambassadeurs, donc, qui est extrêmement longue, ça tient sur 25 pages et encore j'ai réduit les formats, ou 30. Il a beaucoup parlé. Et alors la première observation qu'on a faite, on a été plusieurs à le lire dans le clip comme à guerre, c'est que cette conférence de presse est mal écrite. Mal écrite, c'est-à-dire qu'on a l'impression, je le dis, qu'il s'agit d'un discours qui a été enregistré sur un micro et retranscrit sur un papier. Parce qu'il n'y a pas de style, il y a des fautes de tournure, il y a des expressions qui n'ont rien à faire dans un discours officiel, etc. Il est tel qu'en lui-même, simplement sur un morceau de papier. Bon. Alors, ça donne des résultats de différents niveaux de qualité, mais on retrouve bien tout son discours. Son discours, c'est de dire, première thématique, j'entends, j'ai toujours raison sur tout. Donc je ne me trompe jamais. Donc c'est mieux que le pape, hein, le dogme, infaillibilité présidentielle ou infaillibilité macronienne. Bon. Et puis après, quand on l'écoute, on dit « mais ça, ce discours, on le connaît, c'est le discours officiel, tout le monde tient celui-là, le Premier ministre anglais, le président des États-Unis, quand il nous parle de l'Ukraine, bon, c'est un discours qui traîne partout, mais il pense que c'est lui qui en a eu le privilège de l'invention hein. ». Et au moins, il est convaincu qu'il est très, très bon. Bon, alors laissons-lui là. C'est peut-être une forme de maladie mentale. Bon, ben, on sait que les malades qui nous gouvernent, c'est un vieux thème qui a donné lieu à des livres. D'ailleurs, il y a un livre qui a été paru. « Ces malades qui nous gouvernent ». Bon, ça arrive. Alors, ça fait de la peine à l'électeur. Il dit « j'ai élu un malade ». Ça, on ne le sait pas forcément avant, même si on est prévenu. Ouais. Alors de quoi il a parlé ? Ben de beaucoup de choses. Il a parlé, je me concentre d'abord là-dessus, du fait que la France, depuis qu'il est à l'Élysée, a doublé son budget militaire. C'est considérable, doublé son budget militaire, donc en 7 ans. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, et qui en plus ne donne pas forcément satisfaction aux militaires français. Ben, il l'a doublé, ce qui veut dire que quand on a des finances en difficulté, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Quand on a des finances en difficulté et qu'on double un budget, ça veut dire que les autres, on va éviter de les doubler, on va même peut-être un peu les diminuer. Bon. Alors le résultat est connu sur les hôpitaux, sur toute une série. Les ministères eux-mêmes sont à la portion congrue. Les magistrats travaillent dans des conditions épouvantables, avec des horaires épouvantables et tout, avec des salaires qui sont parmi les plus bas d'Europe. Les enseignants et les instituteurs, pareil. Hein, la France s'honore aujourd'hui d'avoir les enseignants presque les plus mal payés de l'Union européenne, à niveau de formation égal, voire supérieur, dans certains cas. Bon. Donc, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Quand on double le budget de la défense nationale, eh bien, on va prendre de l'argent sur les budgets des autres ministères. Bon.
Il est très fier, hein, puisqu'il dit « quel pays peut en dire autant ?»
Voilà. En plus, il en est très fier. Et alors, je relis ça avec l'arrivée de Donald Trump et ce qu'a dit Donald Trump pendant son premier mandat au pouvoir. C'est-à-dire que Donald Trump a dit, et il l'a redit, et je pense qu'il va le redire parce qu'il en a la conviction profonde, et puis que ça l'arrange très bien, c'est que, en fait, les États-Unis vont dire à l'Europe, où il va le répéter, vous devez payer vous-même votre défense. Ouais. J'en ai assez que vous disiez, ah, ben, il y a l'OTAN, on a une espèce de paratonnerre qui s'appelle Washington et qui nous protège de tout. Non, non, non. Et il va insister en disant « Regardez, le vilain monsieur là-bas, Poutine, là, il vous veut du mal, il va vous envahir. Hein, et donc, c'est le moment de mettre de l'argent dans votre armée. Bon. » Et donc, en tenant ce discours de l'indépendance militaire de l'Europe par rapport aux États-Unis, Macron rend un très très fier service à Trump puisqu'il fait exactement ce qu'attend Trump, sans le dire, mais le résultat est tout à fait là. Trump dit « je veux pas payer », Macron arrive en disant « je paye ». Et donc je double mon budget. Voilà. Donc là, l'affaire est tout à fait claire, même si on ne sait pas à quoi ça va servir. Alors à ce propos, je ne résiste pas au plaisir de l'anecdote, parce que vous savez qu'il y a eu, dans le camp de la Courtine, donc c'est dans la Creuse, un grand camp d'entraînement militaire, la France a accueilli un certain nombre de soldats ukrainiens pour la formation, pour leur formation au combat. Et je vais vous dire quelques passages des commentaires qu'ont fait ces soldats ukrainiens après être repartis de la Courtine. Alors, il dit, c'était un cours de formation avancée au centre d'entraînement des forces terrestres françaises de la Courtine. Alors voilà un commentaire d'un Ukrainien. « Nous avons juste fait le tour des terrains d'entraînement. Ils nous ont donné des cartouches à blanc. Nous avons couru, tiré quelques coups, suivi une formation médicale. Tout ce que nous savions déjà faire, a ajouté le garde-frontière. » Et il a ajouté... En fait, ils ne savent s'en prendre. L'armée française ne sait qu'en prendre à des Bédouins. Donc, ce n'est pas tout à fait la guerre à laquelle les Ukrainiens sont confrontés aujourd'hui. Voilà. Commentaire. Donc, je pense qu'en plus, la France a vendu cette formation à M. Zelensky. Alors, il n'a pas de problème d'argent, Zelensky, puisque le robinet de dollars est ouvert en permanence. Hein. Et donc, on leur a donné une formation dont ils se moquent. Ils savent attaquer que des Bédouins. Ils ne sont pas très, très bons. Et nous, on a perdu notre temps à la Courtine. Hein. Voilà de quoi M. Macron se glorifie.
Il se glorifie aussi de la francophonie. Hein.
Voilà, de la francophonie, oui. Alors... Non, mais c'est bien. Alors, qui s'en glorifie, tant mieux pour la langue française qui reste une belle langue. Ouais. Et qui, j'ajoute, c'est pas pour faire de l'anglicisme, de l'anti-anglais. Alors, en matière de droit, le français est beaucoup plus précis et rigoureux que la langue anglaise. Et on a toute une série de cas dans les traductions, par exemple, de traités internationaux. C'est souvent la langue française qui fait foi, car il y a des ambiguïtés dans les traductions anglaises. En fait, le problème des articles et tout fait qu'on n'est jamais très, très sûr d'une traduction de droit en anglais. Bon, je ne vais pas faire cocorico pour ça, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Cette langue, elle a des avantages. Elle est extrêmement rigoureuse, même si, je le reconnais, elle est difficile. Et surtout, elle est portée aujourd'hui par des gens qui en font un usage très très intelligent, y compris contre la République française de Macron. C'est-à-dire que quand vous entendez, par exemple, j'aime toujours citer son exemple, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, faire un discours dans un français remarquable et où il rend ridicule la diplomatie de la République française, vous dit « le français est une très belle langue où on dit très très clairement, très poliment, mais avec beaucoup, beaucoup de force, ce qu'on pense de la République française. Ça sert aussi à ça. Le français appartient à tous ceux qui le parlent. C'est-à-dire, les Français, nous, d'Hexagone, on est minoritaires dans la francophonie. C'est ça qui est important à dire. C'est-à-dire, c'est une langue générale qui circule et qui a des qualités sur lesquelles j'ai insisté à propos du droit et d'autres sur la manipulation des concepts, etc. Bon, c'est tout. Et je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de locuteurs de français que d'espagnol et tout ». Ça, ça fait partie de l'histoire. Et puis, l'avenir se joue tous les jours sur la question des langues, puisque selon l'endroit où on va tomber soit au Rwanda, par exemple, pays francophone, puisque ce fut une colonie belge, où le gouvernement, un beau matin, a décidé de mettre l'anglais à l'honneur. Et donc, on a perdu quelques millions de Rwandais. Alors, je pense que dans les jeunes générations de Rwandais, on parle beaucoup moins le français. Et c'est dommage, mais c'est un choix qu'a fait leur gouvernement. Je reviens donc à la conférence des ambassadeurs. Après, c'est position générale. Alors, il aborde beaucoup, beaucoup de sujets. Et c'est une espèce de fatras, de tout se tient. Il revient sur toute une série de sujets. Alors, je vais en garder quelques-uns parce qu'ils continuent à être d'actualité. D'abord, il est très content de ce qui se passe au Liban. Alors, on va s'arrêter là-dessus parce qu'au Liban, vous avez peut-être suivi la question de l'élection présidentielle. Finalement, le Liban, qui n'avait pas de président depuis 2 ans, puisqu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre partis et factions libanaises à se mettre d'accord sur l'organisation des présidentielles, ils ont réussi à se mettre d'accord pour le faire. Et il est donc sorti de ce scrutin, très majoritairement, un monsieur qui s'appelle le général Aoun. Alors je souligne, attention, le général Aoun n'est pas celui qui occupait le poste de président 8 jours avant. C'est le même nom, aucun rapport familial entre les deux. Le général Aoun, qui vient d'être élu président, il était chef d'état-major de l'armée libanaise. Alors, être chef d'état-major de l'armée libanaise, ça ne veut pas dire beaucoup de choses, parce qu'en fait, il se trouve que c'est l'une des armées les moins capables du monde, mal armée, mal formée. Et donc, à l'occasion, il a été question de dire, et on va le dire abondamment, c'est ce que M. Macron sous-entend, de dire du mal des milices, donc de dire du mal de Hezbollah. Je rappelle simplement ce que tous les Libanais savent, qu'ils soient pour ou contre ou entre les deux par rapport au Hezbollah. Sans le Hezbollah, le Liban aurait été envahi plusieurs fois par Israël et aurait été occupé totalement par Israël. Ça ne s'est pas passé. Et tous les Libanais honnêtes diront, ben, effectivement, sans le Hezbollah, nous n'existerions plus. Bon. Alors que maintenant le général président dise, on va avoir une armée qui va montrer qu'elle est capable de défendre le Liban. Prenons le pari, il le veut. Ça veut dire surtout écartons le Hezbollah. En pratique, aujourd'hui, cette armée n'est pas capable de résister au moindre assaut de l'armée israélienne.
C'est sûr.
C'est ça la réalité. Alors, peut-être ça changera. En tout cas, il faut savoir que pour obtenir la majorité, donc pour être élu président de la République, le nouvel Aoun, j'appelle ça le nouvel Aoun par rapport à l'ancien, le nouvel Aoun a obtenu un soutien très très important sur lequel je m'arrête. C'est celui d'un dirigeant libanais qui s'appelle Ismail Frangieh. Alors, ce monsieur a joué un rôle très très important puisque c'est lui qui est allé voir les membres du Parlement qui élisent le président de la République libanaise. Il est allé voir en particulier les élus du Hezbollah et les élus du deuxième mouvement chiite qui s'appelle le Amal, donc présidé par M. Nabi Berri. Et il est allé leur dire « Il faut que nous ayons enfin un président pour que notre République soit présentable sur la scène internationale, mais je vous garantis que nous ferons ça la main dans la main en plein accord ». Donc le Hezbollah a dit d'accord, les députés du Hezbollah, il y a des députés du Hezbollah, il y a des ministres du Hezbollah, ils ont dit d'accord. Et le président du Parlement, qui s'appelle donc Nabi Berri, qui est un chiite aussi du mouvement Amal, a dit ok, dans ce cas-là, on marche. Ce qui veut dire que ce qui est présenté ici et là comme une grande victoire des États-Unis et de la France sur le sol libanais doit être tempéré par cette proposition. C'est-à-dire qu'il y a un accord de tous les groupes libanais, qui soient, alors en général c'est des filières religieuses, qui soient maronites, chrétiens, grecs, catholiques de rite grec, chiites, alaouites, enfin tout, je ne rentre pas dans le détail de toutes les variantes des religions dans ce pays du Liban. Mais enfin, tout le monde, très majoritairement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que le Liban soit présentable sur la scène internationale et qu'il essaye d'avoir une unité.
Il n'y a pas eu une pression internationale, oui.
Si, puisque qui a assisté au vote, Madame l'ambassadrice des États-Unis, chargée de surveiller le processus. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et M. Macron, dans son discours aux ambassadeurs,
et l'Arabie Saoudite surtout.
Voilà, et avec les Saoudiens qui étaient là. Bon. Parce que les Saoudiens, ben, ils sont toujours là au moment où on dit « Ah ben on a besoin un peu d'argent ». Alors le monsieur arrive avec son argent et puis, bien entendu, comme il a de l'argent, il pose des conditions. Ouais. Il dit « Oui, mais à condition que j'aimerais bien que si, j'aimerais bien que ça, etc. » Bon, on connaît ce genre de négociation. Elle a lieu très très souvent. Donc voilà pour le Liban. Donc le Liban a enfin un gouvernement. Le Liban n'a pas encore une armée. Et il va falloir discuter de qui forme cette armée. Alors qui est formé pour mener une armée capable? C'est uniquement le Hezbollah. Alors dans ces cas-là, dans ce genre de situation, les précédents historiques sont assez clairs. On essaye d'intégrer la milice armée qui a fait ses preuves dans l'armée future. Parce que l'armée, ce qui reste de l'armée libanaise traditionnelle n'a pas beaucoup de capacité militaire. Et donc, effectivement, l'astuce serait celle-là, intégrer le Hezbollah avec par-dessus quelques généraux qui superviseraient l'opération, parce qu'autrement, on pourrait fabriquer une armée qui n'aurait pas de capacité militaire. Donc ça va se négocier. Et effectivement, là, on parlera de choses sérieusement entre militaires pour parler de la situation du Liban, qui est quand même aujourd'hui une situation fragile. Je rappelle que, par exemple, Israël continue à l'occasion à bombarder des cibles au Liban, sur Beyrouth, etc.
Est-ce que le général Aoun n'a pas donné une assurance aux Américains que le Hezbollah disparaîtra?
Si. Ah si, si, si. Là, oui, non, non, mais ça, il ne pouvait pas faire autrement, sinon il passait
il pas. Bon,
pas. Voilà. Mais après, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça, c'est ça que, bien sûr, c'est pour ça que les États-Unis pilotaient le vote. Ouais. Mais en fait, dès l'instant où il y a eu l'accord avec Frangy, il était clair aussi qu'il se laissait une porte de sortie pour mettre en place l'armée avec des gens compétents. C'est ça la question. Alors après, les Américains seront contents, pas contents, mais de fait, il n'y a pas aujourd'hui de soldats libanais non membres du Hezbollah qui soient en capacité de résister à une offensive israélienne. Bon. Donc la réalité est là, la réalité concrète, et c'est à ça que va devoir s'attacher le nouveau président, qui est lui-même un militaire. Mais les états de service de l'armée libanaise sont inexistants. L'armée libanaise n'a jamais rien fait. Elle en est bien incapable. Donc, alors, M. Macron, là, je reviens à lui, ben, il est très content, on a joué un rôle central, etc. Bon, vous verrez bien comment ça se terminera, vous verrez bien comment toute cette situation-là va évoluer par ailleurs. Alors, un autre dossier sur lequel il s'est arrêté, et j'y reviens parce que c'est un dossier relativement chaud, c'est le dossier de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Alors, il y a tout un passé. Donc, on a affaire à deux anciennes républiques socialistes soviétiques. Je rappelle que l'Arménie, telle qu'on la connaît dans la forme qu'elle a aujourd'hui et dans les limites qu'elle a actuelles, est une création de l'URSS. Parce que si on s'en était tenu à la volonté des Turcs ou de ses voisins, l'Arménie n'existerait même plus sur la carte. Ça, il faut le rappeler. Bon. Apparemment, le fait que ce soit une création, que ce soit l'URSS qui ait permis à l'Arménie d'exister en tant qu'État, personne ne lui en est reconnaissant. Surtout pas en Arménie aujourd'hui. Alors c'est assez curieux. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a assisté, je ne fais pas le détail de l'histoire, mais à une espèce de polarisation de la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan jouant son rôle de république indépendante d'Asie centrale, comme les autres républiques d'Asie centrale après de l'ex-URSS, et l'Arménie étant passée sous la direction de son actuel Premier ministre, M. Pechanian, directement sous la tutelle des États-Unis. Et subsidiairement de l'Europe, alors là aussi, M. Macron tire la couverture à lui en disant « Ah, mais nous, nous soutenons l'Arménie ». C'est-à-dire que dès l'instant, on a bien compris, dès l'instant où les États-Unis soutiennent un pays, Macron fait pareil. Ouais. Donc, il y a pas copie conforme, il n'invente rien. Et donc, la France soutient l'Arménie de M. Pechanian, c'est-à-dire une Arménie qui est en train de dire qu'elle va poser sa candidature à l'Union européenne et à rentrer dans l'OTAN. L'OTAN n'attend évidemment que ça, d'avoir un pion au milieu du jeu, alors d'avoir à côté de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, dans ces endroits un peu agités de la planète, avoir un nouveau membre de l'OTAN serait pour eux un grand bonheur. Bon. C'est pas fait. C'est pas fait parce que le contentieux entre les deux pays, Azerbaïdjan et Arménie, repose sur une question qui est liée à la frontière, aux limites exactes de l'État d'Azerbaïdjan. Alors là, il ne s'agit pas du tout du Haut-Karabakh, de cette espèce d'enclave arménienne au sein du territoire azéri, pas du tout. Il s'agit du fait que, regardez une carte, l'Azerbaïdjan est un État avec deux morceaux séparés l'un de l'autre. Un à l'ouest, le gros Azerbaïdjan avec capitale Bakou au bord de la Caspienne, et puis un autre petit morceau, plus à l'ouest, qui n'a pas de rapport territorial avec la maison mère d'Azerbaïdjan, qui s'appelle le Nakhitchevan. Le Nakhitchevan étouffe tout seul entre l'Arménie sur son est, l'Iran sur son sud, et il n'a qu'une toute petite frontière qui lui permet de respirer et d'avoir un contact avec le monde extérieur, c'est la Turquie. C'est ça la situation. Alors, à ma connaissance, je ne connais aucun État sur la planète qui a deux morceaux séparés et qui n'ont aucun lien de communication entre eux. Alors, on peut à la rigueur prendre l'avion, c'est à peu près tout. Alors dans cette situation qui, effectivement, du point de vue d'un gouvernement azerbaïdjanais, on se dit c'est une situation dont il faut sortir. Hein, j'ai une partie, c'est comme nous et la Corse, c'est pareil, enfin, c'est sur la terre, mais c'est un morceau séparé du territoire avec lequel on n'a aucune relation. Bon. Alors il se dit, ben, il serait bien qu'on ait une petite route qui aille d'un côté à l'autre. Et cette route, il veut la faire passer directement sur le territoire de l'Arménie. Alors l'Arménie dit, attendez, déjà moi je suis un tout petit territoire, hein, vous voulez en plus me prendre un morceau pour faire passer votre route à vous, je ne suis pas trop chaud.
Ça va être à peu près pareil, Gaza, Israël.
Voilà, exactement. Ouais. Bon, alors là on a un sujet explosif qui est compliqué, auquel la Russie a essayé d'apporter des solutions, mais désormais l'alignement de l'Arménie ou de son premier ministre sur les positions de l'Amérique, des États-Unis et de l'Union européenne ne permet pas d'avancer. Ça aurait été une possibilité, c'est-à-dire un arbitrage russe. Ils n'en veulent pas. Donc là, on a là un potentiel explosif non nul. Et clairement, là aussi, M. Macron a pris totalement la position états-unienne, pro-Arménie, pro-Union européenne, pro-OTAN, et il s'en est pris à l'Azerbaïdjan méchamment. Pourquoi méchamment ? Parce que l'Azerbaïdjan, donc république indépendante depuis la chute de l'URSS, est fait partie du mouvement des non-alignés. Je rappelle, le mouvement des non-alignés, une centaine de pays qui, à la suite de la conférence de Bandung, ont décidé de dire qu'ils n'étaient ni avec les Américains ni avec les Soviétiques, mais qu'ils essayaient d'avoir une politique indépendante pour défendre leurs propres intérêts. Et donc, le mouvement des non-alignés a eu des moments de gloire, hein, je pense, l'après-Bandung immédiat. Il en a moins maintenant, mais il continue de fonctionner. Et je dis, c'est presque 90 États, quand même, aujourd'hui, sur 200, c'est beaucoup. Et donc, le mouvement donc, est présidé de façon tournante tous les ans. Il y a une conférence régulière, ça ne s'est jamais arrêté. Tous les ans, il y a un président en exercice. Et l'année dernière, l'Azerbaïdjan était président du mouvement des non-alignés. Et à ce titre, comme président du mouvement des non-alignés, il s'en prend à toutes les formes de colonisation. Ce qui est juste, puisque la majorité des non-alignés ont été des pays colonisés, qui sont sortis de la colonisation. Et donc, à cette occasion, donc dans le cadre de ce mandat qu'il exerçait au nom du mouvement des non-alignés, le président Aliyev, donc le président de l'Azerbaïdjan, a dit qu'il était pour la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Que n'avait-il pas dit ? Monsieur Macron est furieux contre Monsieur Aliyev. Mais voilà. Alors, et j'allais dire, tout le reste de sa conférence est du même tonneau. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une position à prendre sur un conflit international, c'est exactement la copie conforme de la position des États-Unis. Bon. Et ça, il oublie simplement de le dire, puisqu'il dit qu'au fond, c'est lui qui a les idées. Alors, il y a des passages, je ne les ai pas notés, mais il y a des passages où, en fait, il dit « c'est moi qui ai les idées et c'est Washington qui parle hein ». Donc, vous voyez les théâtres de Guignol, hein, commencer un théâtre de Guignol, il y a un monsieur derrière un panneau, puis il a dans les mains une marionnette, et donc il y a un monsieur qui est ventriloque derrière, hein. Et puis il y a celui qui parle, c'est Macron. Hein. Mais le ventriloque, il est à Washington. C'est à peu près ça la situation. Bon, tout ça donne un discours de 30 pages où tout est dit et où on n'apprend pas grand-chose. Et où je pense qu'avec ça, les ambassadeurs qui sont des gens quand même de très haut niveau de formation, de qualification, et ça, qu'est-ce que ça leur permet de faire concrètement ? Pas grand-chose, si ce n'est de dire « le patron a raison ». Alors c'est faire un faible usage, même un usage un peu méprisant de l'intelligence et de la capacité de ces gens-là qui sont capables de comprendre un pays, de le regarder, de le faire vivre, etc. Voilà, je ne veux pas m'arrêter beaucoup, beaucoup plus sur la situation de Macron.
Oui, moi je voudrais juste dire qu'il a parlé de trois priorités pour l'année. La première étant une mission première collective, comme il l'a dit, contribuer à la sécurité de la France et des Français. C'est sa première priorité.
Exact.
Enfin, pour moi, c'est pas la première.
Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire alors ? Parce que si on regarde le reste du discours, ça veut dire éviter l'invasion russe ou quelque chose comme ça, par exemple. Bon, je ne sais pas qui a peur de l'invasion russe, à part lui. Mais ça ne fait pas partie des conversations de la population française. Oui, sécurité. Alors sécurité, c'est plutôt lié. Alors c'est là qu'on voit qu'il a une majorité parlementaire, enfin qu'il n'a pas de majorité parlementaire et qu'il n'a pas de gouvernement en fait. C'est là qu'on voit qu'il essaye d'envoyer des messages sur l'aile droite en disant « Regardez, hein, je me méfie des terroristes, je veux qu'on se méfie des gens qui vont et qui viennent, je me méfie des gens d'autres pays qui viennent tenir des propos désagréables sur la République française chez nous, etc. Et puis, on nous glisse au passage. Lui, il a un peu fait, puisqu'il le dit dans le discours, il dit « Souvenez-vous 2015 ». Souvenez-vous 2015. Alors 2015, c'est deux choses. C'est d'une part Charlie Hebdo, en février, et c'est d'autre part le Bataclan, en octobre. Donc là, il se dit, avec ce sentiment de peur que je réanime, puisqu'il y a quand même ce sentiment de peur, je désigne les adversaires. Les adversaires, c'est pas n'importe qui. Là, en fait, c'est pas Poutine, c'est pas Lavrov, c'est pas le Chinois. Les adversaires, c'est les Arabes. Hein. mettons-nous bien ça dans la tête, l'ennemi de la France, l'islam. C'est l'arabe.
Oui, parce que quand il parle de l'immigration, et en fait, il en parle en parlant de la sécurité.
C'est tout, voilà.
Enfin, parlons de notre sécurité. Je veux ici avoir un mot pour l'immigration. Voilà ce qu'il écrit.
Voilà, c'est là. Donc, en fait, ne regardez pas l'immigré qui arrive comme quelqu'un qui va faire le vigile dans un supermarché ou quelqu'un qui va creuser des trous avec un marteau-piqueur. Regardez pour savoir s'il a une bombe autour de la taille. C'est ça. Hein. Donc, vivez avec la peur. Et quand vous voyez quelqu'un qui représente, qui correspond à ce portrait, cachez-vous, rentrez vite chez vous. Hein. Et c'est moi qui vous protège. Hop, c'est ça. Donc, je crée la peur et je suis là pour vous sauver. Donc, j'utilise l'argument de la peur, je l'augmente, je le valorise. Alors, dernière chose que je voulais rappeler, c'est que sur le Bataclan, on ne nous a pas tout expliqué. On nous a dit, là aussi, c'est des terroristes et tout. Qui a décidé qu'il devait venir et où ça s'est décidé? Eh bien, il y a de bonnes raisons de croire que ça s'est décidé quelque part dans l'extrême droite turque. Ça, on ne le dira pas. Hein. Ça, on ne le dira pas, ou le moins possible. Hein. Parce qu'il faut savoir que dans la République de M. Erdogan, il y a d'une part des services secrets comme partout, mais il y a aussi des milices d'extrême droite qui vivent tranquillement dans le pays et qui servent à l'occasion. Or, il se trouve que, et je renvoie à l'histoire de la République française, que les rapports entre M. Juppé, ministre des Affaires étrangères à l'époque, et le président Erdogan étaient mauvais, et que M. Erdogan a dit que la France paierait le fait que M. Juppé avait manifesté de l'intérêt pour les Kurdes. C'était une faute impardonnable. Et cette faute impardonnable, M. Juppé ne l'a pas payée, mais c'est les gens du Bataclan qui l'ont payée. Faut bien voir ça. Mais ça, bien sûr, on ne le dira pas.
Et puis on va juste finir sur l'Afrique, là, par rapport au manque de respect qu'il a eu par rapport aux peuples africains. Il se targue d'avoir lui-même fait retirer l'armée, alors que c'est pas du tout lui qui l'a retiré. Ce sont les pays qui ont demandé le départ. Le Tchad et le Sénégal, notamment.
Voilà. Ce qui est très positif, c'est que les gouvernements de ces pays ont dit « mais on a rien négocié, on a décidé que cette troupe-là étrangère s'en allait parce que nous sommes souverains, point à la ligne ». Mais il n'y a pas de négociation. Le seul endroit où il y a négociation, on l'évoquait la semaine dernière, c'est éventuellement la Côte d'Ivoire, où là encore, la France peut encore avoir des moyens de pression sur Ouattara. Mais ailleurs, ni le Sénégal, ni le Mali, ni le Burkina n'ont négocié à départ. Et encore moins le Tchad. Je vais en revenir au Tchad, puisqu'on en parle ces jours-ci, personne n'a négocié. Alors on a dit, c'est terminé. Si on a besoin d'une assistance militaire, eh bien, on choisit quelqu'un qui vient nous aider sur la base d'un contrat. Vous êtes là pour ci, vous êtes là pour ça. C'est pas vous qui décidez de la politique du gouvernement. Vous signez un contrat, vous nous rendez tel et tel type de service.
D'ailleurs,
et vous
l'exécutez. Le président sénégalais, il l'a rappelé.
Tout à fait. Oui, ouais. Tout à fait. Il l'a rappelé. Oui, j'ai décidé. J'ai rien négocié du tout.
Rien négocié.
Je suis maître chez moi. Une troupe étrangère, je la fais partir quand j'ai envie qu'elle s'en aille. D'autant plus qu'il n'y avait pas eu d'accord non plus au moment où il était venu. C'est-à-dire les troupes françaises qui étaient dans ces pays-là n'étaient pas venues à la suite d'un référendum populaire ou même d'une décision de gouvernement. Elles étaient venues à la suite d'accords restés secrets accordés au moment de l'indépendance. C'est-à-dire dans les indépendances accordées dans les années 60 à ces pays de l'ex-Afrique française, il y avait des dispositifs secrets, donc non écrits, qu'on ne voyait pas, qui disaient que la France maintenait des troupes. Mais ça n'a fait l'objet d'aucun débat, y compris les nouveaux dirigeants de ces pays-là, quand ils sont arrivés au pouvoir, on leur a imposé la présence de troupes françaises, c'est tout. Il n'y a pas eu de négociation. Donc il n'y aura pas de négociation. Il n'y a pas de négociation
non plus. Et donc l'Afrique est ingrate.
Voilà, l'Afrique est ingrate. L'Afrique est ingrate. Et ça revient à deux réflexions que je fais très rapidement sur ce que c'est que la colonisation. La colonisation s'est présentée alors par les gouvernants comme quelque chose qui coûte. Regardez, j'ai envoyé des soldats, ça m'a coûté de l'argent, j'ai envoyé des aides, etc. C'est pas comme ça que ça se mesure, la colonisation. D'un côté, il y a, j'allais dire, le nigaud, le dindon de la farce, c'est le contribuable français. Le contribuable français, il donne de l'argent à son gouvernement, et le gouvernement français envoie des troupes, envoie des aides, fait construire ceci, fait construire cela. Mais en fait, ce que la colonisation a d'intéressant, c'est pas pour le gouvernement de la France, c'est pour les capitalistes français. Parce que aller dans une colonie française, aller encore en Kanaky aujourd'hui, ou à La Réunion, ou même à Mayotte, Il n'y a pas de banque allemande ou de banque américaine. Il n'y a que des banques françaises. Il n'y a pas les télécommunications italiennes ou autres. Il y a Orange, il n'y a que ça. Dans les supermarchés, il n'y a pas Walmart, il n'y a pas les supermarchés allemands, il n'y a que Carrefour, etc. C'est-à-dire que le gouvernement fait la première mise de fonds et c'est les capitalistes français qui encaissent, puisque la position de monopole permet à Orange, à France Télécom à l'époque, à BNP, etc., d'être seul sur le marché et de faire les prix qu'il veut. C'est l'avantage de la position de monopole. C'est ça la vraie réalité économique de la colonisation. C'est pas les 4 sous que ça nous a coûté, puisque c'est les contribuables qui ont payé. C'est pas ça. Le bénéfice, il est chez les autres. C'est-à-dire, c'est de l'argent public qui aide le privé à gagner beaucoup plus d'argent. C'est ça le mécanisme colonial. Bon, on le dit pas assez clairement.
Assez, ouais.
Mais il est là. Bon, et je reviens à l'Afrique puisqu'on est dans le sujet. Parce qu'il y a eu un événement intéressant ces derniers mois, c'est que il y avait, vous le savez, un gouvernement de transition au Tchad. Gouvernement de transition, puisque à la suite donc de l'assassinat ou de la mort dans des circonstances un peu étranges de Idriss Déby, son fils avait pris le pouvoir, Mahamat Déby. Il y était encore dans le cadre d'une transition. Alors on avait beaucoup ironisé sur les transitions, en disant « Ah oui, mais les gens qui s'installent dans les transitions, c'est pour y rester 50 ans, c'est trop facile, etc. » Et il avait bien dit « Non, transition, c'est pour retrouver le calme, éviter que les Tchadiens s'entretuent ou les Maliens s'entretuent. Et une fois que le calme sera revenu, qu'on aura essayé de régler les problèmes ou de faire avancer les problèmes du Tchad et pas ceux de la France, on fera des élections. » C'est exactement ce qu'a fait le gouvernement de transition tchadien. Et c'est-à-dire il y a eu une élection présidentielle où le fils de Idriss Déby, donc Mahamat Déby, a été élu président de la République dans des conditions tout à fait régulières. Bon. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on a affaire à un gouvernement qui a dit « Ben oui, je me suis soustrait. » Et donc, il a fait partir les troupes françaises. « Je suis désormais indépendant. J'ai un gouvernement qui fonctionne. Ce n'est plus une période de transition. Nous avons normalisé la situation. » Et ça a des suites. Ça a des suites très, très importantes puisque dans les journées qui viennent de s'écouler, il s'est passé une série plutôt d'événements dans un pays qui est frontalier du Tchad. Ce pays frontalier du Tchad, c'est le Soudan. Alors le Soudan, je dis quelques mots sur le Soudan, puisque en fait, vous savez que depuis le printemps 2023, il y a eu une espèce de guerre civile particulièrement atroce entre un gouvernement de transition, là aussi, dirigé par un militaire, le général Al-Burhan, et puis une troupe auxiliaire, on appelle les forces résistance régulières, qui lui menait la vie dure, et on s'entretuait entre Soudanais copieusement entre ces deux groupes armés, l'un étant officiellement au pouvoir et l'autre ne l'étant pas, après s'être fâché avec le gouvernement officiel. On en était arrivé à une situation où le gouvernement officiel, donc du général Al-Burhan, s'était réfugié à Port-Soudan, donc le long de la mer Rouge, et où, au contraire, les forces spéciales s'étaient réfugiées dans Khartoum et elles occupaient Khartoum. C'est-à-dire la capitale était occupée par des rebelles qui étaient armés par beaucoup de gens de l'extérieur, et puis le gouvernement continuait à fonctionner depuis Port-Soudan. Alors Port-Soudan, c'est important parce que c'est le seul port que le Soudan a sur la côte et surtout le port d'exportation du pétrole soudanais. Pétrole soudanais qui n'est pas une grosse ressource, mais qu'il existe, il s'en exporte, ça a des clients indiens, des clients malais, des clients chinois. Bon, donc le gouvernement de Al-Burhan avait continué à avoir quand même une espèce d'assise économique du fait qu'il maîtrisait le pétrole. Mais il n'était plus maître d'une partie de son territoire, en particulier de la capitale et des territoires les plus à l'ouest du pays, la fameuse zone dite du Darfour dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Et il se trouve que l'Ouest, c'est aussi la frontière avec le Tchad. Et on savait que beaucoup de matériel ou de moyens matériels qui arrivaient donc directement à ces milices armées pouvaient venir du Tchad, et c'était d'autant plus facile qu'il y avait au Tchad des armées étrangères qui pouvaient les aider. Alors ça pouvait être l'armée française, ça pouvait être d'autres armées, puisqu'il pouvait y avoir aussi des pays comme les États-Unis qui s'en occupaient. Donc cette situation est en train brutalement de changer. Et c'est un événement tout à fait important, puisqu'en fait, il apparaît que... Alors c'est très très intéressant. Il apparaît que les forces spéciales viennent d'être désavouées par les États-Unis, désavoué par les États-Unis. Parce que, alors, ça fait aussi partie des surprises des dernières semaines du pouvoir de Biden. M. Blinken parlant et M. Biden opinant du chef, comme on dit, ont déclaré qu'il y avait un génocide au Darfour. Et donc, ils en rendaient responsables les fameuses milices, etc. Bon. Donc, ça veut dire, s'ils en sont à dire ça, c'est qu'ils savent très bien que la situation militaire est en train d'évoluer d'une façon défavorable pour leurs favoris, pour leurs poulains, et qu'ils sont en train de le lâcher. Ça ne coûte rien, puisque de toute façon, apparemment, c'est perdu pour les forces spéciales. Donc, ça ne coûte rien. Et en même temps, regardez le vice de l'opération. Si vous dites que si c'est passé entre Soudanais, parce que là, les deux forces militaires, c'est des Soudanais contre des Soudanais. Ouais. Si vous dites que c'est un génocide, vous mettez à dire que ce mot ne veut plus rien dire. C'est-à-dire, on fait s'affronter deux tribus, on va dire que c'est un génocide. Non, c'est pas ça un génocide. Et pourquoi vous faites ça, M. Blinken et M. Biden? Parce que vous voulez pas que le mot génocide soit occupé et utilisé uniquement contre l'armée israélienne à Gaza. C'est ça qui vous dérange, c'est ça qui passe pas. Parce qu'un génocide, c'est très particulier. C'est la décision d'éliminer une population sans défense sur des critères raciaux ou culturels. C'est ça un génocide. Ce qui se passait dans la guerre civile soudanaise, c'était pas ça du tout. C'était deux factions armées qui couraient après le pouvoir, deux généraux avec des ambitions qui se battaient pour la place, mais c'était tout. Il n'y a pas eu. Ils ne voulaient pas se tuer, ils ne voulaient pas éliminer. Il y a 50 millions de Soudanais, il n'y a pas un groupe de Soudanais qui voulait en tuer 25 millions d'autres. Ça, c'est ridicule. Donc on a affaire à une détérioration du concept de génocide. C'est pour faire plaisir à M. Netanyahou. Parce que ça les gêne beaucoup que M. Netanyahou soit accusé de génocide. Et que là, ça soit fondé. C'est tellement fondé qu'il est paru ces derniers jours une étude, il y a une étude, une revue médicale américaine qui s'appelle, ou anglaise, qui s'appelle le Lancet, qui a refait le point sur les victimes du siège de Gaza. Et leur conclusion est très simple. Les chiffres qu'avancent les Palestiniens eux-mêmes, de l'ordre de 50 000 victimes aujourd'hui, avec la proportion de femmes et d'enfants qu'on connaît, sont inférieurs probablement à au moins 40 ou 50% de la réalité. C'est-à-dire on est beaucoup plus près de 100 000 morts que de 50 000. C'est ce que dit une revue respectée dans le monde médical, après travail sur le terrain, enquête, interview de médecins, etc. Voilà la réalité. Là, on est bien dans le génocide, puisqu'il s'agit qu'une armée détruise systématiquement des gens qui ne sont pas de sa couleur et pas de son pays. C'est tout à fait clair. Voilà la double opération. Donc ça veut dire lâchage, on abandonne les forces spéciales, c'est perdu, on n'en parle plus, et on essaye de transformer le mot de génocide pour que M. Netanyahou n'en soit pas la seule victime. Bon. C'est un dernier service que l'équipe Biden aura à Netanyahou après lui avoir envoyé beaucoup de milliards de dollars et beaucoup de matériel, puisqu'il est paru aussi ces derniers jours toute une série de photos montrant des objets made in USA qui servent. Alors, comme ils sont gentils, j'allais dire, enfin, j'ironise. Ils envoient des espèces de tubes en métal de 1,50 m de long sur 20 de large à peu près, dans lequel il y a des tentes. Comme c'est gentil, et vous parachutez ça. Donc, il arrive ça au milieu d'une rue dans Gaza, quelque part, à Khan Younis ou à Rafah, peu importe. Vous ouvrez ça, vous n'avez plus de maison, puisque le matin, l'armée israélienne vous a rasé votre maison. On dit, mais regardez, les États-Unis vous envoient une tente. Comme c'est gentil. Merci, patron. Voilà. Bon, c'est ça la réalité des relations entre les deux. Bon, c'est intéressant de le noter. Et donc, je voulais en finir là-dessus. Donc, je reviens à mon Soudan. Le Soudan est en train, donc la situation évolue très très vite, puisque donc les États-Unis abandonnent les forces spéciales. Et donc, le général Al-Burhan, en fait, le pouvoir est reconnu. Et quel est son premier geste international? Vous imaginez qu'il ne courait pas dans les conférences internationales. Il était très largement occupé. Il savait qu'en plus, il arrivait beaucoup d'argent des Émirats arabes unis pour son adversaire. Beaucoup d'argent et du matériel, etc. Et donc, il savait que la partie était difficile. Le premier geste qu'il a fait maintenant, qu'il voit que la situation est quasiment acquise, même s'il n'a pas repris complètement le contrôle de Khartoum, mais ça va venir, c'est d'aller, devinez où il est allé. Il est allé à Bamako. Il est allé à Bamako rencontrer le nouveau gouvernement malien Et ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'il est en train... Et comme le Tchad fait partie aussi d'une alliance militaire avec l'AES qui s'appelle le G5, donc il y a déjà, avant la confirmation de Mahamat Déby comme président du Tchad, il y avait déjà une alliance militaire entre les trois de l'AES et le Tchad, qui s'appelle le G5. Alors, on n'a pas beaucoup parlé, mais elle existe. Et en fait, donc, on a aujourd'hui, qui se met en place à travers le voyage de M. Al-Bourhan à Bamako, on a une espèce de ligne de pays vraiment indépendants qui va du Soudan, en passant par le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina. Il ne manque plus, j'allais dire, que le Sénégal pour que la transversale indépendante soit complète. On verra. Sidi me fait un sourire. On verra. Je ne l'exclus pas. Parce que l'évolution de la position sénégalaise va bien, bien dans ce sens-là. Mais vous voyez que les choses se changent complètement. Alors quand M. Macron benoîtement dit « Nous avons changé de politique africaine », oui, bien sûr, j'allais dire gentiment un coup de pied aux fesses. Quoi. Hein, vous avez changé de politique africaine. Bien, voilà donc des petites choses qui méritaient d'être dites. Autre sujet qu'on va de plus en plus devoir aborder dans les temps qui viennent, c'est le sujet de ce qui se passe dans les Balkans. Alors, je reviens quand même rapidement. Vous savez, donc en 91, on arrive avec une Yougoslavie unie, qui est un peu gênante parce que tout en n'étant pas aligné sur l'ex-URSS, c'est un pays quand même qui est indépendant, qui fait partie là aussi du mouvement des non-alignés. Souvenons-nous, Tito, au sommet de Bandung, etc. Et donc, qui n'est pas pro-occidental et qui veut pas aller dans l'OTAN et qui veut rien faire. Donc, tout le travail des États-Unis donc dans la décennie 90 va consister à faire éclater la Yougoslavie. Et ils vont avoir un succès remarquable, puisqu'en fait, après, on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui, elle a même empiré. Il y a toute une série de petits morceaux. La Yougoslavie, c'est une espèce de mosaïque où tous les morceaux sont tout petits, pas viables tout seuls, compliqués. Tout. Ce qui s'est passé, donc, on a commencé par la Slovénie, indépendante sans problème, s'est déclarée indépendante, voisine de l'Autriche. Mais ce qui est amusant, et j'apprécie ça toujours dans les manifs palestiniens à Marseille, c'est qu'il y a toujours un drapeau slovène dans les manifestations palestiniennes à Marseille, parce que la Slovénie et son président ont pris position pour les Palestiniens. Ce qui est assez inattendu, on ne le voyait pas venir, mais c'est très bien comme ça. Il y a ensuite la Croatie. Alors la Croatie, ça a été plus dur, puisqu'ils ont été obligés de mettre quelques centaines de milliers de Serbes à la porte, le fusil dans le dos, il y a eu des morts, etc. Il y a au moins 300 000 Serbes qui ont été chassés, et la Croatie est devenue un allié fidèle, OTAN, etc., parrainé par l'Église catholique, etc., parrainé par l'Allemagne. Bon, la Croatie est quand même dans une situation paradoxale, puisque son alignement sur les États-Unis, l'OTAN, le Vatican, etc., n'empêche pas qu'il a été élu récemment un président qui n'aime pas ça. Alors le président, dans la constitution croate, n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein. Mais de fait, lui, il est contre la guerre en Ukraine. Il est pour le calme. Et donc son gouvernement dit qu'il est pro-OTAN, etc. Et lui dit le contraire. Alors le président n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais l'opinion publique croate est quand même étonnante, puisqu'elle a quand même donné à ce monsieur qui dit que la guerre en Ukraine, ça ne sert à rien, 75% des voix pour le mener à la présidence de la République. Ça n'aura pas beaucoup d'effets concrets parce que ses pouvoirs sont limités. Il n'empêche qu'on voit bien là aussi qu'il y a des doutes. Vient ensuite le cas, je descends un peu plus vers l'est et j'arrive à la Bosnie-Herzégovine. Alors là, c'est une catastrophe puisque c'est un pays qui a été fabriqué de bouts et de morceaux par la force parce qu'un beau jour, le président des États-Unis a enfermé dans un camp militaire aux États-Unis les dirigeants des différents courants qui existaient, donc catholiques, musulmans, serbes, tout ce qu'on veut, croates, serbo-croates et tout. Il les a enfermés en disant « Vous sortez de là avec une constitution, je vous laisse pas sortir ». Alors comme ils avaient envie de rentrer chez eux, ils ont fini par signer et on a une fabrication qui ne tient pas debout avec une fédération croato-musulmane imbriquée dans une république serbe qui n'a pas le droit de rentrer dans la Serbie, bien qu'elle soit peuplée de Serbes. Bon, tout ça ne tient pas et d'ailleurs ça ne fonctionne pas du tout. Les gens s'en vont, le pays est pauvre, malheureux, etc. Bon. Il reste après l'Albanie qui est tombée directement entre les mains des États-Unis, qui a suscité la guerre en Serbie. Alors la pauvre Serbie, qui était le morceau de poids, le morceau le plus avancé, a perdu toutes ses prérogatives. Elle a perdu le Monténégro, que les États-Unis lui ont arraché. Elle a perdu le Kosovo, qui était une province serbe à l'intérieur de l'Albanie. Enfin, elle a perdu beaucoup de choses. Et donc elle se retrouve assez à l'étroit et dans une position diplomatique un peu difficile. Et Il voudrait bien, enfin, du côté de l'OTAN et de l'Union européenne, on voudrait bien les faire rentrer une bonne fois pour toutes dans l'Union européenne. C'est loin d'être gagné, mais je l'annonce comme étant un des thèmes de travail de la politique étrangère du bloc OTAN-Union européenne de l'année 2025. Ça, Macron l'a à peine évoqué, hein, mais c'est vraiment ça qui les préoccupe. C'était s'ils pouvaient, une bonne fois pour toutes, ils ont déjà ramassé la Macédoine du Nord, ils ont déjà ramassé l'Albanie qui est dans l'OTAN, etc. Ils ont déjà ramassé le Monténégro qui est dans l'OTAN. Ils voudraient que tout le monde soit dans l'OTAN. C'est pas à suivre. Bon. Dernière chose, parce qu'il faut quand même en parler, puisqu'on arrive au terme de l'émission, parler de ce qui va se passer aux États-Unis. Donc, il ne va pas y avoir, mercredi prochain, premier jour où M. Donald Trump sera installé dans son bureau de la Maison-Blanche, il ne va pas y avoir de grande transformation aujourd'hui. Alors, un mot quand même sur les annonces. Alors, ça cause dans tous les sens les hypothèses, négociations, machin, avec Poutine, rencontres, etc. La réponse a été donnée très clairement par M. Dimitri Medvedev hier ou avant-hier, qui, interrogé sur la question des propositions des négociations, a dit « Des hypothèses, on peut en faire toute la journée, des blanches, des noires, des roses, des en couleur, etc. Nous, on verra quand il y aura des propositions. » Une proposition, ce n'est pas une hypothèse, c'est un texte avec des attendus, des motifs, etc., qu'on peut étudier, dont on discute. Pour l'instant, tout le monde dit la sienne. Et en fait, ce sur quoi il insiste, c'est le fait que surtout pas de piège à l'allemande. Alors, qu'est-ce que c'est que le piège à l'allemande ? Ben, le piège à l'allemande, et l'URSS a payé pour savoir ce que c'était, ça consiste à dire, un bon matin, l'Allemagne est battue, l'Allemagne nazie est battue, et on décide de la séparer entre les belligérants, donc la coalition qui a gagné la guerre contre le régime nazi. Et on fait quatre morceaux. Souvenez-vous, à l'origine, c'est quatre morceaux. Un morceau britannique, un morceau américain, un morceau français du côté de l'Ouest. Et un morceau soviétique de l'autre côté. Et ça donne quatre zones d'occupation. Ça, c'était le début. C'était le moment où on était encore amis entre anciens coalisés. Et puis, petit à petit, assez vite d'ailleurs, les trois morceaux, le morceau américain, le morceau anglais et le morceau français, se rassemblent et constituent une nouvelle République allemande. Ah tiens, c'est nouveau. Et les Russes disent, vous n'avez pas demandé notre avis. Non, on n'a pas demandé, mais on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Bon. Et donc, on met en place assez rapidement donc, le face-à-face entre l'Allemagne des soviétiques et l'Allemagne des occidentaux. Ce qui amène, alors tout ce que vous savez, les barbelés, le mur, etc., etc. Donc on crée les conditions pour l'affrontement, la guerre froide, etc. Et puis après, il y a le moment qui vient tout de suite après, enfin pas tout de suite après, mais qui vient à partir de 89, à partir du moment où l'URSS disparaît, on dit, ah ben, c'était l'Allemagne, il y avait deux morceaux, il n'y a qu'à les rassembler en un seul. Alors il y a un morceau où il y avait tous les anciens nazis, y compris Adenauer, qui était dans les dignitaires nazis, des tas de gens, les commandants des services secrets, enfin beaucoup de hauts fonctionnaires de la République fédérale allemande d'avant 89 étaient d'anciens responsables nazis, c'est tout à fait clair. Ils étaient pour certains passés, ils avaient fait un petit séjour aux États-Unis pour être formés ou blanchis, mais ils étaient là. Et puis de l'autre côté, il y avait plutôt des militants communistes qui étaient fidèles au parti et à l'URSS. Et qu'est-ce qui se passe en 89, de 89 à 91? Eh bien, on dit, mais on va réunir ces deux morceaux de l'Allemagne qui étaient séparés pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes, par des puissances étrangères. Et donc, comme Medvedev dit, nous ne voulons pas d'une solution à l'Allemande, c'est-à-dire nous ne voulons pas que demain matin, on dise qu'il y a deux Ukraines, une Ukraine où il y aurait le Donbass, Zaporoye, Kherson, etc., peut-être Odessa, et puis une Ukraine où il y aurait les nazis de la bande à Bandera ou de la bande à Zelensky, et puis un beau jour, alors ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 15 jours, on dirait « Ah ben ces deux morceaux, on va les rassembler ». Et on va les rassembler précisément au moment où ce seront les nazis de Banderistan qui auront pris l'ascendant sur la partie ouest. Vous voyez le travail. Bon. Alors ça, c'est ça l'hypothèse allemande, et ça, la Russie a très clairement compris, il l'a dit tout à fait nettement, ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons un traité de paix, on ne veut pas un arrangement, disons, on découpe l'Ukraine. L'Ukraine, probablement, n'a plus de vocation à exister, en ce sens que l'Ukraine a toujours... Ah, d'abord, dans ses frontières actuelles, elle a été découpée par la Russie, par l'URSS sur la carte, par Staline lui-même, et ça a toujours été appelé, ce que ça veut dire en russe, Ukraine, ça veut dire la limite. On est quelque part au bord de l'Empire. Et donc, ce qui se passe, ce qui doit se passer, et donc je pense que les contacts... Alors, il y aura peut-être dans 8 jours une rencontre entre Trump et Poutine. Pourquoi pas, hein, ça fait pas de mal de se parler. Mais de toute façon, les positions russes sont parfaitement claires. C'est-à-dire, ils n'accepteront pas, après l'effort que ça leur a coûté, le nombre de morts que ça leur a coûté, parce que beaucoup moins qu'aux Ukrainiens, puisqu'on est certain qu'il est mort au moins 500 000 soldats ukrainiens sur le terrain, encore à Koursk même, les hypothèses sont autour de 50 000 morts simplement pour l'opération de Koursk. Donc ça leur a coûté très très cher. Alors, en cher, en argent, ça leur a rien coûté, puisque les dollars se sont renversés massivement dans le trésor ukrainien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, il y aura peut-être des rencontres, et pourquoi pas, tant mieux, il vaut mieux se parler que de s'envoyer des grenades, mais on n'est pas du tout à la veille de la fin d'un conflit. On est à un moment peut-être où il y a deux personnes, alors raisonnables. Est-ce que Trump est raisonnable? Ben, on ne sait pas s'il est raisonnable. Simplement, je pense qu'en tant qu'homme d'affaires, je vais aller jusqu'au bout de l'analyse du personnage. En tant qu'homme d'affaires, il aime évidemment pas perdre. Mais il aime pas mourir dans une bataille. C'est-à-dire, quand il s'agit de racheter une chaîne hôtelière qui convoite et que ça marche pas, bon, il va pas aller tirer au canon sur le concurrent. Il va dire, ben, là, j'ai raté mon coup, mais j'ai une autre cible ailleurs, je vais m'arranger avec un autre, ou je vais faire une coalition avec un deuxième, on mangera le troisième tous les deux. Ça, c'est un raisonnement de business. Et Trump, il est là-dedans. Il est, faut trouver de façon à s'enrichir, mais pas plus. Alors Trump est un petit milliardaire à côté d'Elon Musk, hein, puisque Elon Musk, c'est un super milliardaire.
Je suis milliardaire.
Mais il raisonne en milliardaire. C'est-à-dire, un milliardaire, finalement, il n'a pas envie que tout son bien parte en fumée dans des coups de canon. Hein. Donc, je pense qu'il a une capacité de négocier. Et puis, en plus, la capacité de négocier, ça va lui revenir par ses généraux qui vont lui dire « Attendez, Donald, dites, vous savez qu'on n'est pas très, très fort militairement. Hein. On a un énorme budget, on a de grosses compagnies qui font des tas de choses extraordinaires. Mais en fait, on n'est pas bon. Sur le terrain, aujourd'hui, où nos armements américains sont opposés aux armements russes de fabrication récente, c'est nous qui perdons. Ils sont en avance sur nous. » Ah, alors on a dit, ah bon, alors c'est pas la peine que je fasse trop le malin en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais leur rentrer dedans. Non, non, c'est pas possible. Donc, on peut s'acheminer vers un discours plus rationnel entre deux personnes rationnelles. Je ne pense pas que Donald Trump soit un fou furieux. Enfin, c'est tout. Je peux me tromper, mais on lui prête beaucoup cette attitude-là. Voilà ce que je voulais dire. Qui nous prépare à ce qui se passera dans les jours. Bon, un petit complément sur
hier, Biden et son ministre des Affaires étrangères, ils ont fait le bilan de 4 années. Et bon, le bilan est super positif, puisqu'il a, il a détruit le Moyen-Orient, l'État d'Israël est bien défendu. Bah, il n'a pas parlé ni de Gaza, ni des bilans de ceux qui seront morts à Gaza, ni la destruction de Gaza. Il a parlé, oui, la Syrie, Assad, on l'a détrôné. Voilà. Hier, il a fait un bilan très positif.
Il serait très très content de moi, bien sûr. Il lui reste 3 minutes. Non, un petit mot, parce que je ne vais pas le lire en entier, mais on a un premier témoignage de Bachar el-Assad, justement, sur son départ. Où il dit « À aucun moment au cours de ces événements, je n'ai envisagé de démissionner ou de chercher refuge. Une telle proposition n'a pas été faite ni par un individu ni par un parti. La seule ligne de conduite, ma ligne de conduite, était de continuer à lutter contre l'assaut terroriste. Je réaffirme que la personne qui, dès le premier jour de la guerre, a refusé de troquer le salut de sa nation pour un gain personnel ou de compromettre son peuple en échange de nombreuses offres et séductions, et la même personne qui s'est tenue aux côtés des officiers et des soldats de l'armée sur les lignes de front, à quelques mètres des terroristes sur les champs de bataille les plus dangereux et les plus intenses. » Et toute la lettre est de ce ton-là. C'est-à-dire que ça permet, et j'insiste parce que c'est intéressant, de séparer le personnage de gens qui pouvaient être son entourage. Qui a eu, et on le sait, c'est même du temps vrai de son père, où il y avait dans la même famille al-Assad des gens qui n'étaient pas très très honnêtes, pas très très propres sur eux. Hein. Bon, c'était probablement encore le cas à Damas ces dernières années. Ce que écrit M. Bachar el-Assad, c'est « Je suis resté propre, je continue à le rester, je n'ai jamais trahi mon pays, j'ai toujours pris mes responsabilités, moi et ma famille proche. Après, sous-entendu, ce que les autres du clan ont fait, je ne le partage pas. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, pour ce qui me concerne, je suis parti au dernier moment, in extremis, et je n'avais pas prévu de partir. Mais au moment, et c'est précis, des moments où j'étais sur la base aérienne de l'armée soviétique, l'armée russe, pardon, à Emimen, quand on a vu que les djihadistes arrivaient et commençaient à tirer sur la base, on s'est dit, là, maintenant, ça devient un peu difficile, il vaut mieux que je m'en taille. Et à ce moment-là, l'armée russe a mis un avion à sa disposition. Et ça, c'était le 8 au soir, c'est-à-dire le jour où déjà les djihadistes étaient à Damas.
Il y a eu des déclarations de la part de la Russie aujourd'hui. Tu verras comment ils expliquent le départ de Assad.
Voilà. Donc ça commence à venir. Ah. Voilà.
Je peux vous dire un truc. Dans la conférence des ambassadeurs, Macron a parlé d'une conférence internationale prévue en juin avec l'Arabie Saoudite à Grenoble pour aller à la reconnaissance de l'État de Palestine.
Oui, mais voilà. Mais ça...
Ok. D'accord, il n'y a rien.
Non, mais ça veut dire alors. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'État de Palestine, il sera créé s'il accepte des dons de la monarchie wahhabite. Et les dons de la monarchie wahhabite, ça peut amener à une situation à l'algérienne en 90-92. 200 000 morts. Hein. Ou vous êtes wahhabite, ou vous êtes mort.
Okay.
Hein. En gros, c'est à peu près ça. Hein. Ah, donc, ça va, il y a des gens qui connaissent. Hein. on a donné. C'est bien de le rappeler. Mais effectivement, ouais. Là, on est dans le Macron pur. Hein, mm-hmm. Puisqu'en fait, ils disent, finalement, alors, c'est ce qui est assez triste à dire par rapport aux pays arabes. Ouais, il y aurait des... Tous les Arabes sont bien. Il y a des dictateurs et il y a des démocrates, mais on ne fait pas la différence.
Oui, il est dans ses contradictions. Ouais. Ouais.
Voilà. Merci Sidi. Beaucoup, Sidi. Merci aux auditeurs. On se retrouve avec le nouveau studio mardi prochain. Vraiment.